En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse ? Jésus leur répondit : Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu.
Chers amis, vous avez sans doute remarqué, on voit beaucoup fleurir de nos jours et depuis un certain nombre d'années toute une littérature qui foisonne sur la spiritualité. Des livres, des conférences, des applications smartphone, tout ça pour de développement personnel, de spiritualité, de méditation, pour être bien avec soi-même, bien avec les autres. Cet intérêt n'est pas nouveau. Mitterrand disait « Je crois aux forces de l'esprit ». Malraux aurait dit « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Mais quelles sont ces forces de l'esprit, justement ? Comment communier avec elles ? Ont-elles un visage de chair ? On comprend ce qu'ils veulent dire par esprit. Tout ce qui s'oppose au matériel, ce qui relève de la pensée, sensible, intuitive, qui vient des profondeurs de l'être, ce monde invisible, les esprits, une transcendance un peu vague, dont nous ne savons pas grand-chose. Il y a tout de même une question que j'aimerais poser. Pourquoi tant écrire sur une transcendance dont nous ne savons rien ? Et si cette transcendance existe, qu'est-ce qui l'empêche de se manifester ? De se manifester de manière claire, distincte. Le Verbe s'est fait chair, nous dit saint Jean, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Je comprends que l'idée d'une révélation soit très difficile à entendre pour notre temps qui a une sainte horreur du dogmatisme et qui préfère s'en tenir justement à une vague spiritualité syncrétiste conçue comme plus tolérante, plus ouverte. On aime mêler la danse des soufis, la boue du Gange, le sourire immobile d'un Bouddha de jade, ah, la contemplation de saint François d'Assise, un saint qui passe pour écolo, bobo, compatible et potentiellement végétarien. Alors, quel est le visage de notre espérance ? Quelles sont nos raisons d'espérer ? Je pense à Pascal, à son expérience mystique après son accident au pont de Neuilly. Feu, nuit de feu, non pas le dieu des philosophes, des savants, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il avait fait cette nuit-là une rencontre personnelle. Non pas un être lointain, mais un Dieu proche. Non pas une spiritualité vague, mais un Dieu personnel. Il n'est pas le Dieu des morts, dit le Seigneur, mais le Dieu des vivants. Tous vivent pour lui. Quelle est notre espérance? Dans les enterrements, on ne rencontre quasiment jamais de gens totalement dépourvus d'espérance, même quand il s'agit de personnes extrêmement éloignées de la foi. Pour tous, celui qui meurt vit là-haut, quelque part. En tout cas, il vit dans nos cœurs. Vit-il en lui-même? On l'espère, confusément. On se console comme on peut avec des images d'enfants. On pense au roi lion, à Mufasa, qui apprend à son enfant qu'il vivra dans les étoiles, qu'il verra sur lui depuis les étoiles. Il vit en toi, va dire le vieux sage Rafiki. L'homme ne peut se résoudre au néant, l'esprit résiste à la poussière. Il est difficile d'être véritablement athée. Véritablement athée. Il y a beaucoup de paresseux existentiels, mais très peu d'athées comme tels. Car le cœur de l'homme est justement dans l'expérience de l'amour, et à travers la douleur de la mort se pressent l'éternité. L'athée véritable doit écraser chaque jour une invincible espérance qui renaît comme le phénix, toujours de ses cendres. Dieu est-il si mort que cela? Faut croire qu'il bouge encore. Et qu'il finit toujours par se réveiller même dans l'homme le plus endormi de nourriture terrestre. Mais le ciel, la vie éternelle, est-ce vrai tout cela? Une femme a eu 7 maris. Duquel sera-t-elle la femme? Quel sera son mari? Est-ce que c'est vrai tout cela ou c'est faux? Qu'est-ce qui différencie la foi en la résurrection d'une simple idéologie fondée sur la peur de la mort? On ne prend plus ni femme ni mari, dit le Seigneur. Mais alors demande la veuve en noir, vais-je revoir mon époux? Vais-je revoir celui ou celle que j'aime, que j'espère dans le silence si douloureux de son absence? Comment concevoir que la lumière de ses yeux, la beauté de son corps, ne finissent que dans la pourriture d'une tombe, dans le froid glacé d'un tombeau? Le mariage est pour l'histoire, pour l'engendrement des enfants. Il n'y a plus de mariage au royaume éternel, mais allons-nous retrouver le visage de nos amours? Et qu'advient-il de tout ce que l'on n'a pas fait, de ce qu'on n'en a pas eu le temps de faire ou d'accomplir? On meurt toujours avec un sentiment d'inachevé, et le reste? Tout ce qu'on n'a pas pu faire, tout ce qu'on n'a pas pu vivre, tout ce qu'on n'a pas pu dire, tout ce qu'on aurait pu, notre amour inemployé, notre vie retenue, tout ce qu'on aurait aimé faire? Nous restons impuissants devant le vieillissement de toutes choses. Le bateau coule, mourez debout, écrit Michel Onfray. Mourez debout, je redoute, j'admire et je redoute la force tranquille de ces athées qui semblent sereins. Tout le monde n'est pas Socrate qui boit tranquillement sa ciguë, et encore Socrate croyait en la vie éternelle. Je ne sais pas, pour ma part, si sans Dieu, j'aurais la force de mourir debout. Je ne vois pas non plus ce qui pourrait empêcher le jeune homme amoureux de se laisser mourir comme un chien couché sur la tombe de sa bien-aimée. Je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de céder à la tentation du désespoir, à la fascination du vide, sinon la certitude que tout passe, mais que la charité demeure, que l'amour ne passera jamais, qu'il est éternel, qu'un jour, un dernier jour, il reverra celle qu'il aime. Dieu est amour, nous dit saint Jean. La charité ne passera jamais, dit saint Paul. Dans la mort, l'amour s'éternise. Ceux qui ont véritablement aimé, savent du fond de leur cœur que leur amour est éternel. Il faut faire de sa vie un hymne à la charité pour qu'elle dure toujours. Les morts ressuscitent, dit le Christ. Sa parole vient rejoindre les profondeurs du désir de l'homme, car nous sommes notre corps. Nous sommes notre corps, nous aimons les êtres en leur corps, la lumière de leurs yeux, leur parfum diffus, leurs sourires, leurs larmes. L'esprit sans la chair demeure une abstraction pour nous. La résurrection est ce que nous espérons tous confusément, car il nous est impossible de nous imaginer comme des êtres spirituels dépourvus de chair. Même les âmes, au ciel, attendent de retrouver leur corps. Je mets ma foi dans le Seigneur. Sans le Christ, tout est pourri, tout est désespéré, tout est mort. Je n'ai pas de honte à dire qu'il m'aide à vivre, à porter le fardeau de mes jours quand il pèse davantage. Avons-nous l'espérance du ressuscité, celui qui marche en tête le premier-né d'entre les morts. Il s'est levé du tombeau vide. Il a été vu par Marie au point du jour. Saint Thomas a mis sa main dans les plaies de son corps. Saint Pierre l'a vu sur le rivage de la mer. Il marche en tête. Nous sommes ses héritiers, héritiers de sa résurrection. Ce jour, il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni douleur, dit le livre de l'Apocalypse, car l'ancien monde s'en est allé. Nous ne croyons pas aux forces de l'esprit. C'est une expression bien trop vague pour lui confier notre foi. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, disons-nous dans le Credo. Il n'est pas dans la vocation de l'homme d'être possédé par des forces, mais d'être habité par une personne. Je crois au Christ, ressuscité des morts, avec son corps marqué des plaies de sa passion, des plaies lumineuses de son amour, de sa tendresse infinie pour les hommes. Nous pouvons dire avec Job, « Je crois, moi, que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et dans ma chair, je verrai Dieu. » L'amour ne passera jamais. Cela m'aide à vivre, cela m'aide à mourir, souffrir. Cela m'aide aussi sans doute à mourir. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Amen.